À voix nue, Caroline Brouet,
Robert Bober. Tailleur, éducateur, potier, cinéaste, écrivain.
Cinquième épisode, le bruit des souvenirs. Bonjour Robert Bober.
Bonjour.
Le bruit des souvenirs, c'est quelques mots que j'ai prélevés dans l'un de vos livres et que j'ai trouvé particulièrement beau et particulièrement adapté au travail que vous faites. Parce qu'après avoir évoqué vos origines, après avoir parlé de vos différents métiers, après avoir rappelé votre relation avec le cinéma et François Truffaut, puis les films avec Pierre Dumayet et Georges Perec, je voudrais finir cette série d'entretiens en parlant de votre écriture. Bien évidemment, puisque vous êtes devenu écrivain sur le tard, comme quoi ça laisse beaucoup d'espoir à ceux qui pensent qu'on ne peut plus écrire après 60 ans. Ben vous êtes la preuve du contraire, et qu'en plus on peut écrire d'excellents livres.
J'ai commencé à 60 ans.
Voilà, vous avez juste commencé à 60 ans. La première fois que je suis venue vous voir, Robert Bober, vous m'avez dit en arrivant dans votre appartement du 11e arrondissement de Paris, pour bavarder, allons là-haut, c'est plus parlant. Eh bien, nous y sommes là-haut. Là-haut, c'est votre bureau, c'est précisément là où vous écrivez, à la main. Dans un bureau qui est un bureau-musée, est-ce que ce bureau vous ressemble ?
Oui, parce que c'est en même temps, je dis mon bureau pour que les gens comprennent mieux, mais j'ai plus envie de dire c'est mon atelier. Un atelier fait de souvenirs, d'objets. Alors dans les souvenirs, il y a les livres, il y a des photos, il y a un petit peu de tout. Et je ne peux écrire que là. Ailleurs, je peux penser aux livres, je peux prendre des notes, mais j'ai besoin d'être là pour pouvoir écrire. Parce que j'ai tous mes stylos, mes crayons, etc., puisque je travaille à la main. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'ordinateur ici, il est ailleurs. De temps en temps, je vais lui rendre visite parce que je reçois des mails. Mais ce n'est pas un objet qui m'est familier. Voilà, j'ai besoin d'autres choses, des objets qui me racontent quelque chose, ou qui me rappellent quelque chose, ou qui me rappellent quelqu'un.
Et derrière vous, donc derrière votre chaise de bureau, de travail, vous avez donc beaucoup, beaucoup de livres qui entourent toute la pièce. Dans les étagères, dans la bibliothèque, ou devant plus exactement, se trouve un certain nombre de post-it. À quoi correspondent ces post-it ?
Alors, je crois que si j'avais lu des livres comme étudiant d'abord, etc., j'aurais peut-être pas eu besoin de ça. C'est parce que j'ai commencé à lire très tard, et à écrire encore plus tard, qu'à chaque fois que je tombais sur une phrase importante, je me suis dit, il faut que je la retienne. Et puis, je mettais ça sur un coin de papier, et puis je dis, mais bon, les post-it existent, ça colle tout seul. Donc, je recopie la phrase, comme des citations, et elles sont autour de moi. Enfin, c'est fait que je me retourne.
Perec, Reverdy, Dubillard, Joseph Roth, Stephen Zweig, Yankelevitch.
Oui. Plein de gens, c'est là, parce qu'ils ont tous dit des choses avec lesquelles je pouvais me rencontrer, qui m'apprenaient quelque chose. Et maintenant, c'est là, il y en a dont l'encre commence à s'effacer, parce qu'elles ont déjà quelques années. Des fois, je les remplace. Et bientôt, il faudra que je remplace encore plus, parce que la place va me manquer.
Ah oui, parce qu'il y en a certains qui sont collés là.
Je me suis amusé à les compter, il y en a 63 pour le moment, ce qui est pas mal.
Il y en a un certain nombre qu'on retrouve dans les textes que vous avez écrits
aussi. Oui. C'est parce que c'est dans les textes que je les mets là pour mieux m'en souvenir, et ça me rassure en même temps.
À la fin de l'épisode 4, hier, Robert Bober, vous nous avez raconté comment vous vous êtes finalement mis à écrire « Quoi de neuf sur la guerre », le premier livre paru. Écrire pour vous, ça a été écrire pour faire quelque chose de plus, passer à autre chose.
Oui, c'est que j'avais quelque chose à raconter que je ne pouvais pas raconter dans les films. Et quand j'étais un peu plus jeune, je pouvais à la fois la journée tourner ou monter, et le soir écrire, parce que c'était différent. Donc je pouvais faire les deux, maintenant je peux plus. Bon, ce que je voulais raconter, à part Ellis Island, à part le film que j'ai tourné en Pologne où vient d'avoir la nuit, il y a quelques exceptions, le reste, j'ai envie de dire, n'avait rien à voir. Et donc j'écrivais des choses que j'avais envie de raconter. Et bien évidemment, il y a une part de moi qui est très importante dans les livres, plus importante que dans l'essentiel des films que j'ai faits. Et probablement, il est arrivé un moment où j'en ai eu besoin. Mais je ne suis pas un écrivain habituel. Les écrivains qui ont commencé à écrire à 60 ans, ça ne doit pas courir les rues. Et ma langue est différente. D'abord parce que, n'ayant jamais été étudiant, il y a des mots que je ne peux pas utiliser. Ça aurait côté maniéré, voilà, donc je ne vois pas du tout ça, il faut que ça reste. D'ailleurs, Paul Tchaïkovski l'a très très bien compris, parce qu'un jour, pour éviter d'avoir dans la même page, parce que ça aussi je l'avais appris, il ne fallait pas deux fois le même mot à quelques lignes près, et j'ai sorti le dictionnaire, et j'ai trouvé un mot équivalent, et Paul le lit, et il me dit, ce mot, il faut que tu l'enlèves. Alors je lui dis, pourquoi il n'est pas bien? Il dit, si, c'est bien, mais c'est pas un mot à toi. Ton écriture est particulière, il faut que tu restes avec elle. Donc c'est ce que je fais. Alors je me passe de beaucoup de mots, il y a des mots que j'ai appris depuis, mais voilà, ce ne sont pas des mots à moi, et je reste avec les mots qui m'ont accompagné pendant toute ma vie. Ça surprend les gens, c'est comme ça, mais c'est mon écriture, et il faut que je reste avec elle. Et c'est pourquoi je dis que je ne suis pas un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui peut écrire sur tout, sur n'importe quoi. Moi, ça, je ne sais pas faire. Et donc, je continue à dire, quoi qu'on en pense, que je ne suis pas un écrivain, mais un cinéaste qui écrit des livres.
Vous avez des mots à vous, Robert Bobert, mais vous avez aussi des formes qui sont à vous, en particulier la forme épistolaire qui est très présente dans vos livres. Vous avez commencé avec Beck, Berg et Beck. Vous avez continué avec Pierre Dumayet, dans ce livre dont nous avons parlé dans l'épisode 4. Est-ce que vous accordez un pouvoir particulier à la littérature? Quel statut vous donnez à ces lettres aujourd'hui?
À ces lettres? Alors je me suis rendu compte que les lettres sont présentes dans tous mes bouquins. Et je crois que je rappelle à un moment donné les lettres que j'écrivais quand j'étais au cahier de vacances à mes parents. Ça tenait sur une carte postale. Je vais bien, je mange bien, je m'amuse bien et je vous embrasse. Voilà. Je n'avais jamais écrit plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques progrès en quantité en tout cas. Et les lettres ont beaucoup d'importance dans mes livres. Je ne sais pas si c'est pour compenser ce que j'avais pas écrit, mais d'une certaine manière, j'ai besoin de m'adresser à quelqu'un. Et voilà, je m'adresse à Beck. J'ai imaginé, pour un livre, on ne peut plus dormir tranquille, une tante américaine qui raconte, qui est danseuse à Broadway, etc. Ça m'a permis de dire tout ce que j'aime dans le cinéma, les comédies musicales, etc. Et les gens sont persuadés que j'avais une tante américaine, mais qui n'a jamais été danseuse. Et quand j'ai commencé à écrire, par instant, la vie n'est pas sûre, je me suis dit, ce que j'ai envie de raconter, il faut que je le raconte à quelqu'un. Et je ne voyais pas à qui d'autre je pouvais l'écrire qu'à Pierre Dumayet. Et c'est venu. Comme ça, les souvenirs sont venus les uns derrière les autres, souvenirs en appelant un autre, un troisième. Et je me suis rendu compte en décrivant que la mémoire rappelle la mémoire et que des fois, le troisième souvenir devenait plus important que le premier. Et c'est comme ça que ce livre et celui d'après avancent.
Et c'est comme ça que progressivement, les livres se font écho. Des histoires se retrouvent racontées différemment, les livres côtoient les photos qui elles-mêmes sont reproductions d'images qui sont parfois dans les films, et que tout se tient, et que tout dialogue, tout est main dans la main.
Oui, et je parle même à un moment donné d'une lettre blanche que quelqu'un, Serge Lasse, qui est devenu un peintre, qui est mort maintenant, et dont j'avais été le moniteur en cas de vacances, il avait écrit une lettre blanche à sa petite sœur, et qui me l'a raconté des années après, ça m'a énormément marqué, et c'était donc important pour lui aussi. Et finalement, j'en ai fait un chapitre également dans ce livre, cette lettre blanche, qui racontait quelque chose, qui racontait le vide, puisque ses parents avaient été déportés.
Vous parlez, Robert Baubert, de cette tente inventée pour les besoins de la littérature, mais précisément, il y a quelque chose aussi que vous maniez avec brio, c'est la façon dont vous aimez brouiller les pistes entre le réel et la fiction, entre le réel et l'imaginaire, disons, entre les romans et les récits. Cette façon que vous avez de tisser d'un même fil les faits et l'imagination. Alors, il y a des personnages vrais qui apparaissent d'abord fictifs, des personnages réels qui apparaissent ensuite dans la fiction. Vous dites que vous vous êtes beaucoup aidé d'un livre de Philip Roth pour ça.
Alors, j'aime beaucoup les livres dans cette génération d'écrivains, Saul Bellow, Malamud, etc. En plus, dans un livre de Malamud, le commis, le personnage principal s'appelle Baubert. Donc alors c'est curieux parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit je vais le montrer à mon père qui jamais de bouquin et ça va lui faire plaisir et je lui montre le livre, je dis regarde, il regarde le livre, il avait le droit de faire ça. Alors je lui dis en Amérique, il y a beaucoup de bobos. Voilà, donc ça m'amusait de Alors, il y a Philip Roth, ce qui est formidable dans ce livre, Les Faits, qui n'est pas son meilleur livre, mais il a un coup de génie, c'est d'inventer un personnage, un alter ego, qui s'appelle Zuckerman, qui est tellement vivant qu'on le prend pour quelqu'un, vraiment. Alors que ce quelqu'un, c'est son double. Et il écrit dans Les Faits, le début commence par une lettre à Zuckerman, en disant, voilà, il y a des choses que j'ai racontées, des choses personnelles, que j'aurais voulu te raconter, etc. Enfin, cette lettre fait quelques pages, et il raconte ce qu'il n'a jamais raconté, ses années d'étudiant, etc. Voilà. Et la réponse de Zuckerman à la fin. Et Zuckerman, il dit, j'ai lu attentivement ce que tu m'as envoyé, alors, si j'ai un conseil à te donner, ne le publie pas, alors qu'on vient de le lire. Et je me dis, mais il est gonflé. Et on oublie que c'est ce qui est incroyable, on oublie que c'est Philip Roth qui s'écrit à lui-même. Et lui dit, parce que si tu écris exactement les choses telles qu'elles se sont passées, tu vas te censurer. Il y a des choses trop intimes dont tu ne pourras pas parler, etc. Donc, continue à faire ce que tu fais d'habitude et ne raconte pas. Alors qu'en fait, le livre d'après qu'il raconte, c'est l'histoire de la mort de son père et le sous-titre, c'est une histoire vraie. C'est le seul livre dans lequel il n'a rien inventé. Et ce livre a été important pour moi. Et voilà, donc il y a ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et en même temps, le livre dont je me sens le plus proche de Philip Roth, c'est Un homme, que j'aime énormément. Même si son livre le plus intelligent, je crois, c'est La pastorale américaine, qui est un livre formidable, voilà. Alors tout ça, mais toutes ces lectures, ce sont des livres que je relis maintenant, je relis beaucoup plus que les livres, plutôt que je les lis, on apprend 20 ans après.
Est-ce que le fait que vos livres soient étudiés en classe de 3e et de 1e, Robert Baubert, pour l'enfant qui arrêta l'école au certificat d'études et qui a commencé à écrire après 60 ans, vous procure un sentiment particulier?
Ah oui, c'est ce dont je suis le plus fier, bien sûr. D'ouvrir un livre de classe et de voir un extrait de ce que j'ai écrit, quelle que soit son importance, l'importance c'est ça. Ces livres sont classés à part dans ma bibliothèque. Voilà, c'est c'est ce que je suis le plus content de montrer à mes enfants. Voilà. Alors bien sûr, qu'ils lisent mes livres, c'est important pour moi. Encore qu'on n'a jamais la relation parent-enfant avec la littérature. Je sais que de manière générale, les parents, quand quelqu'un écrit, les parents lisent automatiquement. Les enfants prennent leur temps, ils se disent bah, nos parents, on les connaît, on a le temps de lire. Voilà. Donc ces livres de classe, pour moi, c'est vraiment très très précieux.
Vous parlez des enfants et de l'importance quand même de la transmission aux enfants, du récit, du fait de raconter. Oui. Vous dites que le présent,
oui,
c'est votre petit-fils, Joachim, l'aîné,
oui,
qui vous a appris à l'aimer, et je vous cite, « parce que chaque jour, il fait ce qu'il ne faisait pas la veille, et qu'il ne fera peut-être plus le lendemain. »
Oui, oui, ça c'est quand il est tout petit, voilà, c'est les enfants qui marchent à quatre pattes à toute vitesse, ils sont adorables, et puis un jour ils se mettent debout, et ils ne marchent plus jamais à quatre pattes. Et on regrette le moment où ils disent pas les mots comme il faudrait les prononcer, les enfants apprennent tellement vite les nouvelles choses, et on aimerait rester avec ce temps, voilà, donc... Un jour, j'ai dit en plaisantant que si j'avais à revivre une vie, je voudrais être mère de famille nombreuse. Et on ne me prend pas au sérieux. Alors évidemment, on ne peut pas revivre une autre vie. Mais c'est formidable d'avoir toujours un petit à la maison. Et famille nombreuse, c'est parce que lorsque la première ou le premier aura 20 ans, j'aurai des petits-enfants, donc il y aura toujours des petits. Et c'est ce que j'aime le plus, d'être entouré des petits-enfants.
On a commencé par la ronde, Robert Bobert. On pourrait terminer par la ronde, par cette phrase du comédien Anton Walbrook dans le film de Max Ophüls. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent et tellement plus sûr que l'avenir. Phrase que vous avez beaucoup utilisée dans vos propre livre.
Et oui, parce qu'on ne sait pas ce que va être l'avenir. Ophüls savait, parce qu'il avait fui l'Allemagne en 1933, la même année que mes parents, et il savait ce que Schnitzler ne savait pas encore.
Puisque la ronde est adaptée d'un texte d'Arthur Schnitzler.
C'est que serait l'avenir. Or, Ophüls a fait ce film après d'ailleurs.
En 1950.
Voilà, donc il savait. Mais le passé, c'est important. Il y a derrière moi un dessin de Steinberg qui raconte... C'est un dessin...
De Saul Steinberg.
J'ai envoyé, entre parenthèses, le même à Mona Ouzouf. Et j'ai vu qu'elle l'avait accroché dans son bureau. Voilà, c'est un bonhomme. C'est fait avec un seul trait. Hein, qui regarde derrière lui et qui avance. Il regarde vraiment derrière lui, mais il avance vraiment. C'est que ce qu'il regarde, en fait, c'est pas s'il est suivi ou pas. Il regarde son passé. Il a besoin de le regarder pour pouvoir avancer. Et c'est parce qu'il le regarde qu'il avance.
C'est une leçon de Yankelevitch.
Absolument. Oui. Je crois que c'est Yankelevitch qui dit, justement, le passé a besoin de notre mémoire. Et nous avons aussi besoin de notre passé. Je crois que c'est comme ça que j'ai toujours travaillé quand on a parlé du moment où j'étais tailleur, etc. Voilà, c'est tout ce passé qui m'accompagne et que je regarde et que je ramène au présent pour pouvoir avancer.
C'est dans On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux, encore Robert Bobert, que vous parlez de Vladimir Yankelevitch, justement, et des leçons sur le temps que vous lui devez. Avec des bribes de phrases que vous lui reprenez, mais en particulier cette occasion de l'instant. C'est presque carpe diem, hein, en fait, mais cette occasion de l'instant, ce temps que je n'avais pas su capter, j'allais longtemps m'en souvenir, et peut-être est-ce seulement parce que j'étais attachée à l'éphémère que je n'avais pas cherché à retenir ce temps si précieux. Ça, c'est important pour vous aujourd'hui.
Oui, mais comme je ne saurais pas le dire mieux que ça, donc... Mais c'est vrai, l'occasion de l'instant, c'est... S'il y a une des raisons, une des très bonnes raisons pour laquelle Je regrette de ne pas avoir fait d'études. J'aurais aimé être étudiant et suivre les cours de Jean Kalevitch. Mais je sais qu'il fallait arriver très tôt parce que 4 heures avant, la salle, l'amphithéâtre était plein.
C'est pour ça que vous avez quelques post-it avec des citations de Jan Kalevitch.
Oui, oui, oui.
Il y en a une que vous avez pas loin de vous.
Oui.
Vous la liriez ?
Elle est un peu plus longue. Il n'est rien d'aussi précieux que ce temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois et puis jamais plus. On n'a pas envie de le commenter.
Non, on a envie de laisser passer un silence. Mais on aimerait terminer quand même par des petits plaisirs, ou des grands d'ailleurs,
oui.
Avec vous Robert Bobert. J'ai envie de vous demander si vous continuez de suivre le Tour de France, parce que ça c'est un de vos plaisirs, qu'on retrouve aussi dans les livres.
Oui.
Depuis petit, vous aimez le vélo.
Alors le Tour de France, moins maintenant, parce que j'étais familiarisé avec des noms.
Des noms qui ont disparu, vous voulez dire ?
Oui, 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 voilà, tous les coureurs avec Beck, on avait été une fois au Veldive, avant que ce soit le Veldive de la rafle. On avait bien suivre ça. Le vélo est un sport populaire. Avoir un vélo, moi je n'ai jamais eu de vélo, mais quelques amis qui avaient un vélo, c'était bien, ça coûtait pas très très cher. Et on pouvait faire du vélo dans la rue, surtout à Butoka, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc c'était très bien. Je me suis contenté de faire du patin roulette.
Comme Harpo.
Voilà.
En tous les cas, dans un de ses films.
Oui, oui.
Et le deuxième plaisir, c'est qu'à la fin des Avoinus que j'ai fait avec Mona Ozouf,
oui.
Historienne, à l'extrême fin de ces Avoinus, un peu comme là, Mona Ozouf a parlé, je reprends ses mots, d'un petit miracle qui lui était arrivé. Et elle a raconté votre rencontre, la façon dont, par instant, La vie n'est pas sûre, votre ouvrage, lui avait redonné le goût de lire alors qu'elle était hospitalisée et qu'elle avait perdu le goût de lire, elle qui est une immense lectrice. C'est votre livre qui lui a redonné le goût de lire. Et comment peu de temps après, vous l'aviez invitée alors qu'elle ne vous connaissait pas, dans une émission de France Inter, Le Grand Atelier de Vincent Josse, qui vous était consacrée. Et comment vous vous êtes rencontrés et comment, dit-elle, vous êtes devenus copains.
Oui.
Donc j'aimerais, de la même façon, que vous nous parliez de Mona Ozouf et de votre rencontre, de votre amitié naissante.
Je me souviens, j'avais été tellement honoré de sa présence. Enfin, je lui ai demandé si c'était possible, et elle était venue. J'avais dit qu'il y a quelqu'un que j'aurais aimé connaître, c'est le dire Jean Kalevitch, mais qu'aujourd'hui j'ai le même plaisir, c'est face à Mona Ozouf, qui est certainement la personne que je connais autour de moi, que j'admire le plus. Voilà ce qu'elle est. Alors c'est elle qui a dit, je me suis fait un copain, j'aurais pas osé, j'aurais trouvé ça irrespectueux de ma part. Et mes venant d'elle, c'était formidable. Et on s'est revus. Et pour écrire le dernier livre, il y avait une histoire personnelle, un peu intime, mais à laquelle je tenais. Et je ne savais pas comment. J'avais pensé si je pouvais l'écrire ou ne pas l'écrire. Et j'ai demandé à Mona Ozouf. Elle a dit, venez chez moi. Ce genre de choses, il faut en parler d'une manière calme, et je ne connais pas plus calme que chez moi. Et au lieu de me conseiller, elle m'a raconté une histoire personnelle. Et donc je n'ai pas écrit ce que je croyais pouvoir écrire, et je l'ai remercié. Et ça qui est formidable chez elle, c'est qu'au lieu de me conseiller quelque chose, elle me raconte une histoire parallèle. Voilà, donc c'est. J'ai presque envie de dire que c'est quelqu'un que j'aime d'amour. tellement... On sait que quelquefois, on s'écrit beaucoup plus. C'est quelqu'un de très précieux pour tout le monde, pour moi en particulier.
Ben voilà, une déclaration d'amour par onde interposée, parce que Mona Ozouf l'entende. Mona Ozouf, Robert Bobert, elle vous aide à vous sentir un peu moins imposteur dans votre statut d'écrivain ?
Oui, je ne sais pas si elle pense à ça. Elle ne doit pas du tout me sentir imposteur, enfin je crois, voilà. Elle m'a conseillé un jour un bouquin, Corps et âme de Frank Conroy, disant que c'était un des livres essentiels qu'elle avait lu depuis longtemps. Alors évidemment, elle dit ça, j'achète tout de suite le livre. Et je le lis, c'est un gros bouquin, et que j'ai lu deux fois. Je lui dis que j'étais en train de le lire. Elle me répond dans une lettre, je tremble à l'idée que vous ne l'aimiez pas. Vous voyez, j'ai du mal à le dire même. Je l'ai rassé tout de suite. J'ai dit, non, c'est un chef-d'œuvre. Et il se trouve que là, dans ce livre, il y a un personnage qui n'est pas du tout fait pour devenir un grand musicien, qui vit dans des conditions incroyables, et qui devient un pianiste génial, et qui a un sentiment d'imposture. Et ce livre m'a également aidé à ça. Voilà, je me suis senti un imposteur, non pas quelqu'un qui veut prendre la place de quelqu'un d'autre, mais qu'on me désigne comme un écrivain, etc. Enfin, tout ça me dérange beaucoup. Et quand j'ai vu la première fois le premier livre dans une vitrine au milieu d'autres livres de gens que j'appréciais, j'avais ce sentiment d'imposture. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Et voilà, je suis comme un étranger qu'on naturalise alors qu'il n'en avait pas fait la demande.
Robert Bobert, vous avez cherché des traces toute votre vie. Est-ce que, avec ces livres que vous écrivez, avec ces films que vous avez filmés, réalisés, vous diriez que maintenant c'est vous qui laissez des traces, un peu comme des petits cailloux que vous auriez semés?
Alors ça, c'est pas à moi de le dire. J'espère en laisser quelques-unes. C'est ce par quoi d'ailleurs je termine mon dernier livre.
Merci beaucoup, Robert Bobert.
Merci à vous. Je vis d'abord, j'écris parfois ensuite. Mais il m'arrive de sentir davantage ce que veut dire vivre en écrivant. Pierre Reverdy.
C'était À Voix Nue avec Robert Bobert, réalisation Louise André, prise de son Michael Simon, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.